Ce matin, je priais, je pensais à ce verset, j'ai failli le mettre dans ma prière. Quand la tsunamite dans le cantique des cantiques dit je dormais, mais je veillais, c'est mon bien-aimé qui frappait à la porte. Je ne sais pas si c'est pas bien ce verset pour introduire ce culte. Je m'endors à moitié, je veille un peu. Qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est Dieu qui frappe à ma porte. J'espère que ce sera le cas pour plusieurs. Vraiment. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre. Je voudrais que nous lisions deux textes pour commencer. Nous en lirons d'autres que je vous encouragerai de relever, les notes. Enfin, les notes, les textes. Dans Ésaïe, au chapitre 57, Dieu dit avec qui il est, avec qui il habite. Parce que Dieu n'habite pas dans toutes les maisons des chrétiens, croyez-moi. Il voudrait, mais il est souvent dehors. Nous aurons certainement l'occasion, puisque l'heure est bien, on n'est pas en retard du tout, nous aurons l'occasion de prendre quelques minutes pour répondre à cette prédication. Il faudra le faire consciencieusement. Des fois, on demande aux gens de se lever, et presque on a envie que quelques gens, enfin pas moi, mais il se peut qu'il y ait des gens qui aient envie, qu'il y ait des gens qui se lèvent. C'est pas moi, je demande, je veux pas que des gens se lèvent. Ce que Dieu veut, c'est que vous lui répondiez vraiment. Dans Ésaïe 57, au verset 15, Dieu parle. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Madame Carrière, vous avez une forte voix pour 99 ans. Je vous excuse. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dans deux chroniques, Salomon, qui est rempli de sagesse à ce moment-là, en tous les cas, il va faire une prière, il veut que la présence de Dieu soit dans le temple, il veut que son Dieu soit là pour exaucer, et il fait une prière, une longue prière. Il est à genoux, lui, le grand roi, il est à genoux et il fait une prière. Il sait, il a compris. Regardez, de Chroniques, chapitre 6, verset 22, nous n'allons pas tout lire, mais notez les références pour vos cultes personnels. Je crois que ça peut être très, très, très édifiant de noter les textes et de dire, tiens, nous avons lu dans de Chroniques 6, eh bien, je vais le lire en entier. Ça peut vous aider à construire vos cultes et à vous édifier. De Chroniques, chapitre 6, verset 22. Si quelqu'un pêche contre son prochain, voyez, si quelqu'un pêche contre son prochain. Verset 24, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pourquoi? Pour avoir péché contre toi. S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les. Verset 26, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie à cause de leur péché, s'ils prient, etc. Verset 28, quand la famine, la peste, la rouille, etc. Si un homme, verset 29, alors maintenant on voit bien que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si Dieu s'adresse à une congrégation ou à un peuple, il s'adresse à chaque individu. Si un homme, je répète, si un homme, si tout un peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie et sa douleur, et étende ses mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Au chapitre 7, nous voyons quelque chose d'important peut-être pour nous. Lorsque Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il lui achevait de prier. Je crois qu'il y a des prières qu'on a faites. Je ne sais pas si on les a achevées. Je ne sais pas si on a achevé. Chapitre 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eût réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Il reprend les termes de sa prière. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Je le relis, s'il vous plaît. « Je l'exaucerai des cieux. » Deuxièmement, « Je lui pardonnerai son péché. » Et l'apothéose, « Je guérirai son pays. » Notre pays est-il malade? Oui. Notre pays a-t-il besoin de guérison? Oui. Dieu peut-il le guérir? Oui. Alléluia. Ces deux textes nous montrent deux choses. C'est que la grâce est éternelle, que la grâce, elle est réelle, et que beaucoup de chrétiens, même assidus à l'église, mais venant par simple habitude, priant par simple habitude, l'habitude c'est un danger, se privent de la grâce, et souvent on le voit, veillez à ne pas vous priver de la grâce de Dieu, je vous exhorte à ne pas vous priver de la grâce de Dieu. Il se pourrait que si nos prières, quand même, ne sont pas exaucées depuis longtemps, il se pourrait que cette prédication vous concerne. Vraiment. Si vous êtes tristounette, parce que vous avez des difficultés avec votre communion avec Dieu, ou peut-être votre communion qui n'en est plus, nous avons très facilement critiqué les croyants d'autres religions, dénonçant qu'ils récitaient des prières. Sans vouloir jeter la pierre, je pense que ça peut nous arriver aussi, de réciter des prières. Seigneur, bénis le culte, bénis ta parole, donne-nous des cœurs ouverts. Enfin, des trucs qu'on récite. J'exagère ou non? C'est terrible. C'est terrible. Je guérirai son pays, c'est certainement la chose la plus belle qui pourrait nous arriver. Que Dieu, dans sa puissance infinie, c'est rien du tout pour lui. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Le problème de Dieu, je l'ai déjà dit, ce n'est pas les pécheurs. Dans les vallées des ossements desséchés, regardez ce que Dieu est capable de faire. Le problème de Dieu, ça n'a jamais été les pécheurs. Les pécheurs, n'importe lesquels, Dieu peut les convaincre de pécher. Quand le Saint-Esprit est là, il convainc le pécheur. Donc le problème de Dieu, si on peut parler ainsi, c'est que c'est l'Église. Je vous assure que c'est vrai. Nous, on est là, Seigneur, mais convainc-les de pécher. On se préoccupe, il faut le faire dans un esprit intelligent. Comme il ne faut pas essayer de prouver à Dieu qu'il faut que les pécheurs soient convaincus de pécher. C'est ça qui ne va pas bien. Le problème de l'Église, le problème de Dieu, c'est l'Église. Une Église qui sera intelligente, spirituellement, qui apprendra à ne pas se priver de la grâce de Dieu, qui dira, oui, notre pays a besoin de guérison, mais peut-être qu'avant de commencer par la guérison du pays, ça serait peut-être intelligent de se poser la question, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées alors qu'elles correspondent vraiment à la volonté de Dieu. Est-ce que ce que nous vivons dans l'Église, la nôtre, pour commencer, correspond à la volonté du Seigneur? Est-ce que vous croyez que tout ce qui se vit dans les églises est dans la volonté de Dieu? Moi, je ne crois pas. Donc, mes frères et sœurs, ce matin, nous sommes là Dieu veut te parler si un homme entend la voix de Dieu. Et je comprends pourquoi plusieurs fois dans l'Ancien Testament, même le Nouveau, il est dit « une voix crie ». Je comprends que Dieu utilise cette image pour que nous comprenions que parfois Dieu est obligé de crier, de crier. Cette semaine, j'ai beaucoup médité le livre de Daniel, où on voit sur cet homme quand même quelque chose de particulier. Et Dieu va dépêcher des anges dans un combat pas possible pour lui parler d'une façon extraordinaire. Et il va dire, mais puisque tu as, le jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre, dès le premier jour, il était à Babylone, il aurait pu dire, de toute façon, si on est là, c'est la faute à nos parents, c'est la faute aux autres. C'est toujours facile de se dérober, de ne pas chercher Dieu en disant, mais c'est la faute au pasteur, c'est la faute à l'église, c'est la faute à mes parents, ils ont rendu un mauvais témoignage, moi, ça, j'en ai rien à cirer de l'église. Ça ne vous dédouane pas de chercher Dieu, croyez-moi. Si vous pensez que Dieu va vous couvrir, si vous lui dites quand vous passerez devant lui, ben tu sais, mes parents, ils rendaient mauvais témoignage, c'est pour ça que je ne me suis pas converti, vous allez voir comment ça va se passer. Vous allez voir. Donc, il y a une parole que Dieu a laissée dans l'histoire de l'Église. Si mon peuple s'humilie, si, c'est un conditionnel. Ça commence par une condition. Dieu n'oblige personne, c'est un si. Si, il faudrait que le si devienne quand. Quand mon peuple s'humilie. Si mon peuple s'humilie. Vous avez remarqué, il n'est pas dit si mon peuple prie. Il est dit si mon peuple s'humilie. Puis après, il priera. Si mon peuple s'humilie. Alors vous allez me dire, mais t'inquiète, on sait ce que c'est l'humilité. Eh bien, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Quand on voit dans la parole de Dieu la bénédiction qui repose sur les humbles, Dieu fait grâce aux humbles. C'est un principe. Vous pouvez être dans le désert, dans la prison, comme Joseph. Qu'est-ce qu'il dit de Joseph quand il était en prison ? L'Éternel fut avec lui. Jérémie a été en prison. Est-ce que ça l'a empêché d'exprimer son ministère ? Bien au contraire. Paul a été en prison, est-ce que ça l'a empêché d'exercer son ministère, de faire des expériences? Non, et même de nous écrire ce que Dieu voulait que nous sachions. Bien au contraire. Dieu a fait grâce aux hommes, où qu'ils soient, nous on est là, et c'est le diable, oh il est malade, c'est le diable. Que c'est triste. Au bout de 15 ans de conversion, d'en être là. Dieu fait grâce aux humbles. Quelqu'un qui a développé, et qui, c'est personnel, ça se développe. Jésus va dire un jour qu'on amenait des petits-enfants. Vous savez, il y a des mamans qui avaient vu la bénédiction. Alors qu'est-ce qu'elles voulaient? Que Dieu bénisse leurs enfants. Donc elles les amènent à Jésus. Jésus, les apôtres, bien sûr, eux, les rabrouent. Et Jésus dit, mais laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. Dieu veut bénir nos petits-enfants. Il faut que nos enfants, nous les amenions à Jésus. Et j'espère vraiment quand même que le minimum d'humilité permettra que si nous avons encore des enfants à la maison, nous puissions les amener à Jésus pour qu'il les bénisse. Autour de sa présence. Autour de sa parole. L'humilité, ça s'apprend. Et Jésus ajoute dans ce texte, quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant. C'est-à-dire que c'est un choix que je fais. C'est un choix que je fais d'écouter. Je lis la Bible. Moi, je sais que des fois, ça m'a été difficile à une époque. Parce que vous savez, on change. D'entendre les gens faire toujours les mêmes prières. Je crois quand même qu'on pourrait, s'améliorer. Mais ça, on n'a pas le jugé. L'humilité. Dieu a toujours fait grâce aux hommes. Toujours. Est-ce que vraiment nos cultes personnels, notre recherche de Dieu, notre communion avec Dieu, c'est quoi la communion avec Dieu? Est-ce que notre communion avec Dieu correspond à quelque chose? Ce sont vite quelques minutes auxquelles, comme vous savez, quand on présente le repas, des fois par habitude, nous pourrions comparer le fait de rendre grâce pour un repas à certains cultes personnels de certains chrétiens. Ça serait inquiétant. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Et je crois que si nous cherchons Dieu, cette semaine où nous avions une semaine de jeûne et prière, je crois que plusieurs se sont appliqués à chercher le Seigneur. Pas à prier pour les petits bobos, il faut le faire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il faut prier pour ces besoins qui sont là. Dieu nous demande de le faire. Lorsque Jésus nous demande, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, on peut inclure dans cette parole le fait qu'il y a plein de petits besoins auxquels on a droit de demander. Mais cherchez Dieu. Dans ce texte, ça y est, on va terminer avec, quand il dit, mais voyez, s'humilier pour pouvoir prier comme il faut. Si je prie pour rien, quelqu'un pourrait dire, mais on peut prier pour rien? Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible où il est dit que quand vous priez, ça ne sert à rien? Eh bien oui. Il y a des textes où Ésaïe justement dit, mais quand vous priez, ça ne sert à rien. Je n'écoute pas. Ils n'avaient pas abandonné le culte, croyez-moi. Et pourtant, il dit, quand vous priez, je n'écoute pas. Quand Jésus enseigne, ne priez pas comme les hypocrites qui s'imaginent que. Ne priez pas comme les païens qui pensent que, quand vous priez, priez de tout votre cœur. Et on peut prier pour rien. Et on peut se faire croire que ça va, puisqu'on prie. Mais mes frères et sœurs, Dieu sait qui parmi nous est en train de se faire piéger par une pseudo-spiritualité. Et nous devons véritablement à un moment donné dire, mais Seigneur, il faut que je cherche ta face. Et pour cela, ça va passer d'abord par la prière, parce que j'aurai besoin de lui dire certaines choses que je dois lui dire. Bien sûr, bénis mes enfants, bénis mes petits-enfants, bénis ceci, bénis cela, bénis l'assemblée. C'est des requêtes. Bien sûr que je dois prier, mais peut-être que je dois commencer à prier pour ceux qui devraient changer. Pourquoi je suis toujours dur avec mon épouse? Pourquoi cette dureté? Pourquoi ce mépris? Vous ne croyez pas que le véritable jeûne, c'est de commencer à dénouer les chaînes de la méchanceté. C'est écrit ou c'est pas écrit? Parce que jeûner pour jeûner, c'est bien. Moi, je l'ai fait. J'ai pu le faire par la grâce de Dieu. Mais ça sert à rien de jeûner. Si nous ne nous humilions pas, les jeûnes étaient presque tout le temps dans l'Ancien Testament des jeûnes d'humiliation. Et je peux vous dire que ça a payé chez certains qui s'étaient mis complètement en braque avec Dieu. Complètement. Mais ils se sont humiliés. On est dans les chroniques, c'est 2 Chroniques 33. Vous connaissez, mais lisez l'histoire de ce roi, j'espère que je ne me trompe pas, 2 Chroniques 33. Lisez, s'il vous plaît, on n'a pas le temps de le faire là, mais je vous encourage à le faire. Je vous encourage à lire 2 Chroniques 33, verset 1 à verset 20. Un homme qui a fait le mal, comme c'est pas possible de le faire, parce qu'il était roi. Et nous, parfois aussi, nous nous prenons pour des petits chefs. C'est moi le chef de famille, t'as intérêt à obéir. Mes frères, un chef dans la parole, c'est un responsable qui protège, croyez-moi. Cet homme, vous le lirez, il a, verset 2, il a fils qui est mal aux yeux de Dieu. Regardez la fin du verset 6. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu. Ça, je pense qu'il n'y a pas que Manassé qui l'a fait. Le problème, à cause de Manassé, verset 9, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent. Verset 10, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple ils n'y firent point attention. Alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Pour moi, je peux vous dire que l'histoire se serait arrêtée là. Mais, verset 12, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, et regardez le verset 13. On a chanté ce matin deux cantiques sur la patience de Dieu, je pense qu'on a bien fait. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et à partir de là, vous allez voir, il bâtit, il relève, etc., etc., etc. Verset 19, sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés, ses infidélités, les places où il bâtit ses hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié. Dans la prison, hélas ou c'est bien? Ben c'est bien. Nous, ça nous contrarie. Mais est-ce que Dieu a bien fait de lui accorder cette épreuve? C'est le diable qui lui a accordé cette épreuve ou c'est Dieu? C'est le Seigneur dans son immense bonté. Et cet homme à qui moi, c'est pour ça que moi j'ai dit l'histoire se serait arrêtée au verset 11. Parce que on ne peut pas reconfier la royauté à un homme qui a autant péché. Mais Dieu a vu son cœur. Et cet homme, il ne s'est pas humilié, il n'a pas juste regretté, « Ouais, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien, vous savez, avec ses co-détenus. » Il a dû parler, ils ont dû discuter. « Ah, oh, t'as vu qui c'est qui arrive ? Oh, t'as vu qui c'est qui arrive dans la prison ?» Ça se passe comme ça. Et cet homme, je ne sais pas s'il a eu droit à une cellule privée, j'en sais rien. Mais en tous les cas, cellule privée ou pas, il s'est humilié. Et Dieu, du haut des cieux, a vu cet homme. Et Dieu est heureux de cette humiliation. Parce que Dieu n'attend qu'une chose, c'est de restaurer les gens. Si ce matin nous sommes là, nous boitons, nous couinons, j'en sais rien. Nous nous traînons. Nous sommes dans le fossé. Je ne sais pas, les images qui sont belles pour expliquer la misère dans laquelle nous pouvons parfois nous trouver. Même si physiquement ça ne se perçoit pas. Quand vous voyez ça, vous dites, mais Dieu est prêt à restaurer tout le monde. Même ces gens qui auraient dû donner l'exemple et qui se sont fourvoyés. Dieu a vu cet homme. Et je voudrais vous encourager, mais aussi vous encourager par rapport à vos enfants. À vos enfants qui sont peut-être véritablement loin de Dieu et qui vous méprisent lorsque vous leur parlez de Jésus, qui ne vous supportent plus parce que vous avez osé parler de Jésus-Christ. Vous croyez que Dieu n'est pas capable de les toucher? Je le répète, le problème de Dieu, ce n'est pas les pécheurs. Dieu l'a montré à Ézéchiel le jour où il était prêt, parce qu'il faut être prêt à faire certaines expériences. Et Ézéchiel était prêt, et Dieu lui a dit, t'as vu, qu'est-ce que tu vois? Il n'y a que des eaux partout. Alors, est-ce qu'ils peuvent revivre ces eaux? Mais j'en sais rien. Mais moi, je vous dis que tous les cimetières... Si nos enfants sont perdus, si nos petits-enfants sont dans le péché, si les gens que nous aimons sont dans... Ils peuvent revivre. Et ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de... Bien sûr, c'est eux qui se convertiront, c'est eux qui se repentiront. Mais mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait l'approbation de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des obstacles à la prière. Salomon l'a compris, il va faire une longue prière. Il ne va pas faire une longue prière parce qu'il fallait prier longtemps, parce que ça faisait bien. Il va faire une longue prière parce qu'il avait besoin de prier. Et Dieu va lui dire, je suis d'accord, quand mon peuple ou quand un homme s'humiliera, il s'humiliera d'abord, je l'exaucerai. Et Dieu peut nous dire ce matin la même chose, quand tu t'humilieras, quand tu reconnaîtras les choses qui ne vont pas, quand tu reconnaîtras réellement. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec dans un domaine ou dans un autre. Mais non, c'est pas un problème. Tu comprends pas, toi, tu peux pas comprendre. Quand quelqu'un ment, c'est pas autre chose que du mensonge. Et on doit demander pardon aux gens à qui on a menti. Et peut-être d'abord pardon à Dieu d'avoir transgressé sa parole. Mais bon, c'est pas grave, mais il y en a plein qui mentent. Mais t'en as plein qui mentent, tu ne vas pas te prendre la tête pour un mensonge. Si vous avez commis un mensonge, si vous vivez dans le mensonge, repentez-vous. Et si vous êtes humble, vous l'acceptez. Si vous êtes orgueilleux, vous rejetez ça. Ça m'est égal, moi. Ça m'est égal. Bien sûr que je préférerais que tous les croyants acceptent la parole. Mais je ne suis pas responsable de votre acceptation ou non. Et nous devons avoir cette humilité de nous tenir devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce qui provoque du trouble? Hier matin, je lisais le deuxième livre des rois. Vous avez lu le deuxième livre des rois? Dans ce deuxième livre, à un moment donné, il y a une expérience extraordinaire. Le chef de l'armée, qui avait une réputation pas possible, de l'armée de Syrie, qui avait mis une défaite à Israël pas possible, se retrouve chez lui un jour, il se rend compte qu'il a la lèpre. Donc, il a la lèpre, bien sûr, il est puissant, il est glorieux, et c'est tout ce que vous voudrez, mais il a la lèpre. Et il y a une petite servante qui avait été amenée captive d'Israël, une toute petite gosse, qui dit à sa maîtresse, mais tu sais, si mon maître connaissait le prophète en Israël, Dieu le guérirait. Alors il y a toute une démarche qui est faite, puis lui un jour il se retrouve devant la maison du prophète, le prophète lui fait dire, va te plonger cette fois dans le Jourdain, etc., etc. Cet homme obtient la guérison, et il lui propose une somme extraordinaire, ça frisait les 500 000 euros, et lui, non, je veux rien, va-t'en. Et il s'en va. Et puis, il y avait un certain Gehazi, qui était le pasteur adjoint d'Élysée, quand il a vu ça, il a dit, aïe, aïe. Et puis il est allé le rejoindre alors qu'il était un peu éloigné. Tu sais pas, au fait, il y a tout d'un coup, il y a deux serviteurs qui sont arrivés d'un peu plus loin et on aurait besoin d'aide et de deux vêtements de rechange. Et Naaman lui dit, mais prends deux talents. C'était des sous, hein, 50 000 euros à peu près. Prends ça et... C'est pas tout à fait juste, mais ça doit pas être loin. Prends ça et deux vêtements de rechange. Puis il revient, je sais pas si vous vous rendez compte, cette somme à l'époque, ça représentait quand même de quoi acheter quelques moutons. Et puis, Élisée va le voir, lui dit, mais Gehazi, t'étais où? T'as été où? Eh bien, attends, on va le lire. On va lire la fin, vous allez voir. On va lire ce qui nous intéresse. Deux Rois, chapitre 5. C'est des belles histoires. J'aimerais que vous aimiez lire. Il y a des gens, oh, moi, l'Ancien Testament, j'y comprends rien, je ne le lis pas. Eh bien, c'est dommage, parce qu'il y a vraiment des belles images. Deux Rois, chapitre 5, verset 24. Donc, il a eu tout son argent, etc. Regardez bien cette histoire. Regardez bien, mes frères. Je ne sors pas du sujet, je peux vous le dire. Il a fait une grosse erreur. Ça peut arriver de faire des erreurs? Oui, oui. Deux Rois, 5, verset 24. Arrivé à la colline, Gehazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il les renvoya à ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Gehazi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ?» La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Gehazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Les années ont passé. Au chapitre 8, regardez bien mes frères et sœurs, vous allez comprendre ce que c'est la grâce de Dieu. Les années ont passé, au moins 8-9 ans, puisque là, il y a une famine de 7 ans qui est présentée. Chapitre 8. Alors, on va lire ce qui nous intéresse. Verset 3. Donc, il y a au moins 8-9 ans qui sont passés. Regardez la situation, s'il vous plaît. Regardez bien. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Regardez bien, frères et sœurs. Avec qui le roi d'Israël s'entretenait-il? Le roi s'entretenait avec Gehazi.
Vous pouvez dire alléluia, je peux vous le dire.
Serviteur de l'homme de Dieu, il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Au roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Et la suite, bien sûr, c'est bien. Vous avez vu, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre ne te quittera pas. Tu as menti, tu as magouillé, tu as été intéressé par l'argent. Tu te rends compte la gaffe que tu as faite? La lèpre ne te quittera pas. Et 8-9 ans après, Géasi est en train de s'entretenir avec le roi, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez l'image spirituelle qui nous est impartie. S'entretenir avec le roi des choses que Dieu fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est humilié. Ce n'est pas écrit, mais c'est sûr. Pourquoi cet homme est avec le roi? Parce que quand vous lisez la loi pour les lépreux, laissez-moi vous dire qu'il n'aurait pas dû être là. Il était dans la présence du roi, en train de s'entretenir des choses que Dieu faisait, donc dans la communion avec son roi. Et vous pouvez être sûr, je ne sais pas comment vous le voyez, mais vous pouvez être sûr que cet homme, il s'est humilié. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il n'a pas dit, ouais, de toute façon, Élisée, c'est un mauvais chef, il m'a maudit. Vous savez, on a vite fait de faire une fixation sur les gens que Dieu utilise pour nous éprouver. Faites attention au travail, à la maison. Dieu utilise les gens. Dieu peut même utiliser votre meilleur ami pour vous éprouver. Un collègue, un pasteur, Dieu peut. Écoutez, ça, il est souverain. Mais il a dû prier, il a dû se dire, bon, mais ça, je ne vais pas rester toute ma vie avec la lèpre. Toute, je ne sais pas quel âge il avait, imaginez qu'il n'ait que 25 ans ou 30 ans. Je ne vais pas rester toute ma vie avec ça. Et il a dû supplier Dieu. Et il connaissait, il s'était entretenu avec Élisée. Je pense qu'il connaissait beaucoup de choses. Le seul fait d'avoir été en contact avec cet homme de Dieu qui était Élisée. Et il s'est humilié. Ça a pris combien? Ça faisait 7, 8 ans ou 9. Il s'est humilié. Il a prié. Il a cherché la face. Et le fait qu'il soit avec le roi en train de prier, en train de parler, nous prouve qu'il cherchait la face du Seigneur. Le résultat, il a dû se détourner de ses péchés et Dieu l'a exaucé. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'on pourrait prendre d'autres textes. On pourrait prendre vraiment d'autres textes où des hommes vraiment se sont humiliés. Même Manassé, il fait partie du haut du tableau. Mais il y a un autre qui était pas mal non plus. C'est le roi Akab. Non, Ézéchias, il était mieux quand même. Mais Akab. C'était un roi des plus pervers, encouragé par une femme super spirituelle. Et regardez cet homme, vraiment un roi, mais je vous assure mes frères et sœurs, ça vaut la peine de lire ces histoires. Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible, mais quand vous lisez un roi, il faut lire tout le contexte. Vraiment, c'est un mauvais roi, un très mauvais. Vraiment, dans la liste des mauvais, il doit avoir le pompon, vraiment. Un roi 21, verset 17. Regardez bien, frères. Il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas d'échec fatal dans la grâce. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Dans la grâce de Dieu, il n'y a pas d'échec fatal. N'importe qui peut se repentir. Il y a une église où Dieu dit, tu ne sais pas que tu es morte. Ça, on ne peut pas être plus éteint. Tu ne sais pas que tu es morte, mais repens-toi. Alléluia. Regardez dans la dispensation de la loi. Un roi 21, 17. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth. Il avait fait tuer le propriétaire de la vigne pour l'obtenir, par un conseil super intelligent de son épouse. Verset 19. Tu lui diras, regardez bien comment Dieu parle parfois à quelqu'un. Il faut arrêter à un moment donné. Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui en est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. » Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Mes sœurs, je vous encourage à encourager vos maris et pas à les exciter à faire le mal. Il agit de la manière la plus abominable en allant après des idoles. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps. Il jeûna. Il couchait avec ce sac. Il marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Regardez bien, c'est Dieu qui parle au prophète. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Alléluia. Je suis avec l'homme contrit et humilié. Alors mes frères et sœurs, il faut que nous nous appliquions. Qu'est-ce que c'est qui fait obstacle à la prière? Vous rendez compte, si tu t'humilies, je t'exaucerai des cieux. C'est pas compliqué. Mais franchement, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des choses que Dieu nous aurait déjà montrées et qu'on a mis de côté? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que Dieu nous a vraiment révélées et que nous n'y avons pas fait attention, comme Manassé? Ils n'y firent pas attention. C'est vrai que j'ai des idoles dans mon cœur. Il y a une idole dans ma vie qui m'empêche d'avoir une véritable communion avec toi. Mes cultes personnels sont tellement misérables qu'ils ne ressemblent plus à rien. Il y a une idole, quelque chose qui m'empêche d'avoir une vraie communion avec toi. Détourne-toi de cette idole. Détourne-toi de cette idole. Tu la connais, le Seigneur te la montrera. Ce n'est même pas la peine que le pasteur utilise des images pour te dire, voilà, c'est telle chose ou telle chose. Si vous êtes vrai, le Saint-Esprit nous montrera ce qui ne va pas dans notre vie. Vous allez lire le psaume 50, je prends le psaume 50, où je l'ai mis sur mes notes, mais enfin, c'est surtout dans mon cœur. Quand ce texte, ce chapitre nous dit, mais Dieu parle, Dieu parle, Dieu veut parler. Marquez-le et méditez-le, ce psaume. Et à un moment donné, Dieu dit, mais comment ça? Tu parles contre ton frère? Tu t'es imaginé que je te ressemblais? C'est pourquoi je me suis tue. On peut parler de certaines situations, mais il y a des gens qui sont tout le temps en train de salir les gens. On peut évoquer une situation, tiens, telle situation s'est produite, tel frère a fait ceci ou cela. Mais ce n'est pas de la médisance, c'est surtout pas de la calomnie. Mais tu parles contre ton frère, vous lirez le psaume 50, et Dieu se tait. Un frère ce matin citait ce texte dans la prière, je ne dis pas qui c'est, Jérôme, vous ne voudriez pas? Non, il citait ce texte, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il dit? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes. Vos crimes, attends, pasteur, on n'est pas des criminels. Nous sommes des gens bien, des gens sophistiqués. Nous nous appliquons. Mais l'apôtre Jean dit que celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. Alors je sais qu'on peut avoir des ennemis, la Bible dit « aimez vos ennemis », c'est souvent des gens qui sont contre nous parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Jésus dit « aimez vos ennemis », il dit pas « c'est pas normal que vous ayez des ennemis », il dit « aimez vos ennemis », c'est tout à fait normal que nous ayons des gens qui ne soient pas d'accord avec nous. Mais entre avoir des ennemis parce qu'ils ne partagent pas la même foi que nous qui sont dans les ténèbres et nous dans les lumières, ce qui est normal, et puis entre ne pas aimer son frère parce qu'il n'a pas le même caractère ou parce qu'il a fait une erreur. Gehazi, vous avez vu Gehazi? Moi quand je le vois discuter avec le roi, moi ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien parce que je sais qu'il n'y a aucun échec fatal dans la grâce. Est-ce que je cherche Dieu? Si mon peuple, si un homme, une femme, un jeune, un vieux, s'il me cherche, c'est Dieu qui parle, c'est pas nous avec notre doctrine assemblée de Dieu. C'est Dieu qui dit, si mon peuple m'invoque, si mon peuple s'humilie, je vais m'humilier, je vais voir, le Seigneur va te le dire, mais c'est lui qui te le dira. Mais tu ne vois pas que tu es un paresseux? Un paresseux. Pas pour aller pas pour faire du footing, pas pour aller au cinéma. Tu es un paresseux pour mon royaume. Et quand on voit dans la Bible ce que Dieu dit de la paresse, ça fait peur. Parce que la paresse peut enclencher la négligence. La négligence peut enclencher la perte des dons, l'amour du monde. Est-ce que vous accepteriez, si c'était le cas, que Dieu vous dise, mon fils, ma fille, tu es un paresseux. Vous accepteriez que Dieu vous le dise? Et qu'est-ce que vous feriez si Dieu nous le disait? On chante des fois ce beau cantique, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Qu'est-ce qui fait obstacle? Je l'exaucerai des cieux. Dieu est plus intéressé que vous à vous exaucer. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu est plus intéressé que vous à sauver vos enfants. Vous croyez que vous aimez plus vos enfants que Dieu ne les aime? Dieu est plus intéressé que nous à guérir notre pays. Mais il faut que ça commence par le début. Et le début, Seigneur, mais si je suis un paresseux, mais montre-moi-le. Si un obstacle dans mon foyer, qu'est-ce qu'il est dit? Marie, aimez vos femmes. Femmes, comportez-vous de telle façon avec votre mari, qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et je pense que le diable, il doit se régaler d'entretenir, de pousser à la roue, comme on dit, et entretenir que des foyers soient tout le temps en train de s'allumer, de se disputer. Parce que dans cette situation-là, ne vous imaginez pas que nos prières seront exaucées. Je crois que la première église dans la France, c'est nos petites maisons. Comment j'aime ma femme? Est-ce que j'aime ma femme? Non, mais tu ne comprends pas, la mienne, elle n'est même pas aimable. Alors, ce n'est pas la peine de te casser la tête. En plus, on a souvent réglé le problème d'un revers de main. Non, mais ma femme, tu sais, elle n'est même pas convertie, ma femme. Et alors? Mais mon mari, si tu savais, mon mari, le mépris qu'il a. Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu veut bénir les foyers? Qui c'est qui a institué la famille? C'est Dieu. Alors s'il y a un obstacle, il faut peut-être que je commence à... Ah, moi je ne parle pas avec ma femme, elle m'énerve. On ne parle plus. Vous ne priez pas? Non, mais on n'a jamais prié ensemble. Moi je crois que quand on a un mari ou une épouse chrétienne, moi je trouve que c'est bien de dire Seigneur, fais-nous grâce. Vous pouvez aller tout seul dans votre coin et dire, Seigneur, fais de moi le mari que tu veux que je sois. Ça vous arrive de prier ainsi? Ça vous est déjà arrivé de dire à votre femme, chérie, qu'est-ce qui ne va pas à moi? Alors c'est sûr que si vous commencez à lui dire, ah ben je vais te faire la liste, t'en diras t'asseoir. Je l'ai entendu ça. Je l'ai entendu dans ma maison, je crois, non? Non, Isabelle? Non, je plaisante. Et est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de s'asseoir? Et d'écouter, et de prier, et de montrer la liste, en plusieurs exemplaires, au Seigneur, et dire, Seigneur, je vais changer. Je veux que mes prières soient exaucées, j'en ai marre de prier pour rien. J'en ai marre. Ne me reprenez pas sur l'expression, je sais que quelqu'un va me reprendre, c'est peut-être pas bien que j'ai dit j'en ai marre, mais je le dis. J'en ai assez. Ça va mieux? Ouais. Merci. J'en ai assez que mes prières ne touchent même plus le plafond. Seigneur, je vais m'humilier. Je vais relire les Saintes Écritures et je vais me tenir. Je vais chercher ta face. Vous savez, prier quelqu'un, demander quelqu'un, c'est une chose. Si j'appelle un jeune pasteur, Olivier, est-ce que vous pouvez faire ça? Je lui demande quelque chose, je le prie de faire quelque chose. Mais la face de quelqu'un, être en face de quelqu'un, mais la face de Dieu, la face de Dieu. Seigneur, tu vois franchement, Seigneur, il faut que je règle cette affaire. Je voudrais apprendre l'humilité. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. On peut apprendre l'humilité par des situations difficiles aussi. Seigneur, je vais jeter toutes mes prières faites. il faut que je les jette. Continuez à prier pour les autorités, pour vos enfants, etc. Mais mes prières toutes faites, là, il faut que je m'en débarrasse. Et je vais reprier. Et je vais chercher ta face. Je vous assure que dans cet état d'esprit, je crois qu'il sera possible de nous détourner de nos mauvaises voies. Et quand cette quatrième condition sera réalisée, Dieu dit, je t'exaucerai. Mes frères et sœurs, je pense qu'on veut être exaucés, vraiment. Nos enfants qui ne sont pas encore au Seigneur doivent venir à l'Église. Dieu va les convaincre de péché. Ne le convainquez pas à lui. Soyez-vous convaincus de ce qu'on a partagé ce matin. Mes frères et sœurs, c'est un grand sujet, cette affaire. Mais il ne faut pas que ce soit une prédication. Il faudrait que ce soit notre vie. Seigneur, tu vois, c'est tous ces hommes. Vous avez vu Manassé ? Géasi ? Je ne sais pas, peut-être que vous n'aviez pas fait attention à ce texte. Mais quand même, ils sont beaux, ces textes. Dieu pardonne. Vous pouvez dire Alléluia. Parce que de toute façon, si Dieu ne nous avait pas pardonné, il n'y aurait personne dans ce temple. Il n'y aurait personne. Le temple serait fermé. Oui ou non ? Je t'exaucerai. On peut fermer les yeux, s'il vous plaît ? Est-ce que vous entendez le Saint-Esprit vous parler ? Est-ce que vous entendez le Seigneur essayer de vous faire comme la Sulamite ? J'étais endormi, mais je veillais. C'était compliqué. C'est compliqué quand on a sommeil et qu'en même temps, il faut veiller parce qu'on attend. C'est mon bien-aimé. C'est mon bien-aimé. Tu entends, mon frère ? Le bien-aimé, le Dieu du ciel et de la terre, ce n'est pas le pasteur ou le préfet. Le Seigneur du ciel frappe à ta porte. Tu entends, ma sœur ? Ne te préoccupe pas du salut de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Préoccupons-nous de cette affaire-là. Le reste suivra. Si Manassé, si Akab, si Josias, mes frères, si Pierre était là, il vous dirait, nous avons un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, mais il fait grâce aux humbles. On répond dans le silence. Je vais demander aux musiciens de venir. J'aimerais que nous chantions la troisième strophe de ce vieux cantique, Jésus par ton sang précieux. Nous restons recueillis. Répondez-lui avec un soupir. Vous savez, nos larmes. Dieu entend la voix de nos larmes. Ce n'est pas le vocabulaire que vous allez utiliser avec une super syntaxe, tout ce que vous voudrez, ça ne sert à rien ça. Mais répondez-lui. Seigneur, je vais m'humilier. Je suis dans l'abondance, eh bien je vais m'humilier quand même. N'attendons pas d'être en prison ou vraiment coincé. Répondez-lui avec votre cœur. Seigneur, il faut que mes prières soient exaucées. Il faut que ma mère revienne. Il faut que mon frère revienne. Il faut que mon petit-fils revienne. Dieu le fera. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Je vous demande de m'écouter parce que c'est la pensée de Dieu. C'est l'affaire de Dieu de convaincre de péché. Vous n'avez même pas besoin de leur parler, ils le savent. En silence, nous comprenons l'humilité. Notre Père, merci pour le jour où ta parole a été traduite en français. Merci. Sincèrement, Seigneur. Merci pour ce jour où tu as utilisé des hommes qui ont voulu que leur génération puisse connaître ta pensée. Nous sommes à tes pieds. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu sais dans quelle situation nous trouvons, dans quelle habitation nous sommes, si nous sommes dans des maisons bénies spirituellement ou si nous sommes enfermés dans une prison, de toute façon, c'est toi qui ouvres les clés, qui a les clés, qui ouvre et qui ferme. Alors nous te demandons, Seigneur, de faire de nous de ces véritables chrétiens qui auront la joie sur la terre, non seulement de voir leurs péchés pardonnés, mais de voir leurs prières exaucées. Et peut-être même, Seigneur, nous le croyons, de voir notre pays guéri. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.